Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur Radio Fringale pour une nouvelle émission preview. Et oui, cette semaine, on enchaîne les previews avec cette fois-ci Paris-Nice, la course au soleil, la première grosse course par étape française. Donc c'est traditionnel, début mars, on attend toutes et tous avec impatience cette course. Et avec moi, je vais vous présenter ceux qui vont m'accompagner pour vous parler de la course au soleil. Tout d'abord, tel un coureur de grand tour, il sort de son hibernation pour les premières grosses courses par étapes. On me dit dans l'oreillette que l'hiver a été long et qu'il va falloir bosser fort pour regagner des watts dans l'école. Salut Antoine, c'est un plaisir de te retrouver parmi nous. Comment vas-tu ?
Salut à tous. Bah écoute, je suis très 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 content de revenir là pour parler un petit peu de vélo avec vous. C'est vrai que ça fait longtemps, mais je me suis bien reposé, on va dire, et je suis prêt, hein, le soleil arrive, donc moi je sors de ma grotte et c'est parti, on y va.
Voilà, toi tu sors que quand le soleil est là, t'as raison.
Bah oui, quand il pleut, je préfère me cacher.
Et pour nous accompagner ce soir, lui, la coupure hivernale, il ne connaît pas. Et si d'aventure les courses étaient suspendues, il serait même le premier à vouloir débriefer les courses de notre cher Vino Coutorn sur PCM. Mais je crois savoir qu'il préfère de loin voir Evenepoel et Roglic dans leurs œuvres et il attend la semaine prochaine avec impatience. Salut Titien, comment vas-tu?
Salut Adrien, salut Poppy, bah salut tout le monde. Écoutez, très très content d'être là. C'est les grosses courses reviennent et comme je te dis, je suis hyper content, ça y est, de pouvoir faire cette preview de Paris-Nice. C'est vraiment un moment qu'on attend chaque année. Bien plus qu'effectivement les vidéos de Vino Coutorn. Donc d'ailleurs, j'adresse un petit message à la Torne. La prochaine vidéo est attendue depuis maintenant longtemps. Donc voilà, si Vino Coutorn veut revenir sur le grand écran, il peut à tout moment. Donc écoute, en attendant. Là pour Paris-Nice, et puis apparemment Poppy il me disait en off qu'il voulait pas revenir avant tout de suite parce que voilà, il a compris que l'année 2024 c'était l'année des quiz. Donc je crois qu'il.
J'ai
Mais malheureusement,
peur.
Je sais pas si tu vas y couper aujourd'hui, Poppy. Hein.
Aïe,
ah
aïe, aïe.
Non, vous
Ah
n'allez pas y
merde, ah
couper,
là là.
les gars.
Aïe, aïe.
Bon, avant de passer au quiz, un petit rappel pour toutes les auditrices et tous les auditeurs, d'aller voir sur notre Facebook, notre Instagram, les super articles proposés très régulièrement par Simon et Matt de la rédac de Radio Fringale, donc où vous retrouvez des articles historiques, des articles un peu plus de fond, les récaps de la semaine. Donc voilà, on complète notre activité chez Radio Fringale. En plus des podcasts, vous retrouvez désormais des articles donc à retrouver sur nos réseaux sociaux. Et puis bien évidemment, si vous nous découvrez, n'hésitez pas à nous lâcher un petit like. Même si vous nous découvrez pas, vous pouvez lâcher un petit like aussi d'ailleurs. Et aussi à vous abonner. On est toujours en route tranquillement vers les 2000 abonnés. Et c'est voilà, on aimerait bien atteindre ça tranquillement pour la campagne des classiques et le Giro, donc merci par avance à tout le monde. Les quiz, bah oui, les quiz, ils sont toujours présents, messieurs. Alors, ça va être des questions, on va pas s'éterniser, mais une question à la fois, alors forcément sur Paris-Nice. Déjà, je vous ai même pas demandé si vous étiez prêt.
Oui, prêt, toujours prêt. Hein.
Ouais, toujours prêt. Hein.
Toujours prêt, écoute, serein, non, mais prêt, allons-y. Hein.
Allez, première question. Je veux que vous me citiez les trois coureurs qui ont gagné au moins trois fois d'affilée Paris-Nice.
Froome ?
Non.
Sean Kelly ?
Sean Kelly, oui, ça
oh,
fait
les
un.
Noms. Déjà les noms.
Putain,
mais ah, bah, Sean Kelly, Paris-Nice, c'est Monsieur Paris-Nice. Hein.
C'est vrai, c'est vrai.
Oh là là.
Ah non.
C'est des coureurs que vous connaissez. Hein.
Egan Bernal ? Non.
Non.
Bah non.
Récemment, il n'y a personne qui a gagné trois fois d'affilée
non.
Paris-Nice.
Récemment, non.
Ouais, donc c'est, je sais pas, Eddy Merckx ?
Ouais, Eddy Merckx.
Ah, au pif.
Bernard Hinault ?
Hinault, non. Ah, c'était. C'est, non. Et Hinault, il n'a jamais gagné Paris-Nice. C'était trop tôt dans la saison pour lui, ça.
Pas dans le pic de forme.
Ouais, c'est ça. Non, pas du tout.
Anquetil ?
Non, mais c'est un Français. Mais c'est pas Anquetil. Il l'a gagné,
Fignon.
Il l'a gagné, mais pas d'affilée. Non, pas Fignon non plus.
Jalabert.
Ouais, Jalabert.
Oh.
C'est le dernier à l'avoir fait. 95, 96 et 97.
J'ai quand même cité des noms, faut le dire.
Non, mais C'est vrai. Alors après, c'est sûr que dès que ça remonte avant 2010, c'était un peu plus en
ah
peine.
Bah ouais, bah là, tout le monde le sait, hein.
Mais voilà, voilà. Bon.
Mais promis, je vais m'instruire.
Question suivante. Le plus petit écart au classement général de la course est de 2 secondes. Mais entre qui et qui ?
Oh, je sais. Alberto Contador et Sergio Henao ?
Ouais, joli.
Oh, j'allais dire Contador, mais j'avais pas le deuxième.
2017.
Ah, oh, joli, Titien, oh, magnifique.
Trop fort, il est trop fort. Magnifique. Et pourtant, c'est après 2010. Hein.
Et ouais, bah, c'est pour ça. Hein. J'ai pas osé le dire pour pas trop vous mettre sur la voie, mais là, là Antoine, c'était pour toi.
Et j'avais Contador, par contre. Hein.
Ah, ouais, c'est vrai.
En même temps, j'ai l'impression que chaque année, Contador, il attaquait dans la dernière étape pour finir à 2-3 secondes au classement général, tout près.
L'année d'après, il perd genre pour 4 secondes sur Geraint Thomas ou un truc comme
ouais,
ça.
Ouais, c'est 2016, ouais.
Ah, ou de l'année d'avant, ouais. Ouais, mais... Donc,
il adore ça.
Allez, dernière question. En quelle année Paris-Nice est parti pour la dernière fois de Paris ? Parce qu'on verra tout à l'heure... Le départ cette année est au Mureau et on, voilà, les dernières années on a été habitué à un départ.
Je sais que c'est il y a
2008.
Non, mais c'est il y a très longtemps. Enfin, c'est parce que quand j'étais petit, moi j'habitais par là et j'allais le voir. C'était à Issy-les-Moulineaux le départ, donc j'avais 7-8 ans, donc c'était il y a bien longtemps. Je dirais ouais 95.
Non, après.
Ah, pas loin.
97.
Non.
99.
Non.
Là, c'est presque du pif, quoi.
Ouais, c'est du pif.
Ouais, c'est beaucoup du pif. Hein.
Ouais, ben, bah, en fait, c'est... 2001
Non, presque.
Bah, 2000.
Ouais, en 2000.
Oh, là,
allez, Poppy, bonne réponse. Bravo.
Ça fait 24 ans, là, que... Oh,
ouais. Mais c'est vrai que... Alors, comme Paris-Roubaix ne part plus de Paris, oui. Et ben voilà, Paris-Nice depuis 2000, mais je pensais que c'était plus vieux que ça, moi.
Ouais, j'aurais dit aussi. Ouais.
En recherchant, finalement, non.
On sait pourquoi, ou c'est juste une question genre logistique ?
Non, je pense... Alors, à mon avis, c'est pour pouvoir avoir des communes autour de Paris qui peuvent financer le départ.
Ok.
Et c'est pour ça aussi que ça tourne. C'est un peu, si tu veux, comme la dernière étape du Tour.
Oui.
Ça tourne en général, ça part d'une banlieue puis d'une autre ville de banlieue.
Mais maintenant ça part loin parce qu'avant c'était à Issy-les-Moulineaux, c'était quand même assez proche de Paris. Maintenant tu vas carrément en Vallée de Chevreuse et tout quoi. Donc,
Ouais.
Mais... Bah
ouais,
banlieue,
du coup, ça leur permet de commencer directement avec une étape assez difficile et transition magnifique pour la présentation du parcours, Titien.
Et oui, tout à fait. Ben en fait, le parcours de Paris-Nice qui va partir cette année de la belle cité de la belle ville des Mureaux. Je ne sais pas si vous connaissez du tout. Enfin, moi, j'ai découvert cette ville de départ cette année. Je ne sais pas si c'est la première fois qu'ils partent de là. Ça ne me dit rien du tout. Je ne sais pas si vous avez plus d'infos que moi. Mais toujours est-il que voilà, effectivement, on aura une première étape vallonnée et non une première étape toute plate. Alors, rien de bien méchant, effectivement, mais si ce n'est que voilà, il y aura une succession de petites côtes de 1 à 2 km, voilà, sachant que c'est une boucle hein, autour des Mureaux. Et puis dans le final, on va dire dans les 30 derniers kilomètres, on va avoir quelques petites côtes on a joué 1 km à 10%, 2,6 km à 5%, donc voilà, sachant que le sommet de la dernière difficulté est à 12 km de l'arrivée, donc je dirais une étape, et puis il faudra voir les conditions météo, sur des débuts de Paris-Nice, j'ai souvent souvenir de conditions difficiles, donc une première étape pour sprinter costaud, on va dire, et puis peut-être, pourquoi pas, la chance pour certains punchers déjà de tenter leur chance. Voilà, en tout cas, il faudra avoir des grosses cuisses, mais des grosses cuisses qui permettent d'encaisser les efforts difficiles. Donc on devrait avoir du spectacle pour cette première étape de Paris-Nice. Et on enchaînera le lendemain avec cette fois-ci, bah voilà, j'ai envie de reprendre la fameuse phrase de Pro Cycling Manager, du plat et encore du plat entre Thoiry et Montargis, 177 km, dénué de difficultés, donc... Sur une étape comme ça, sur Paris-Nice, on connaît, voilà, je pense qu'on va traverser beaucoup de plaines et le danger, ce sera le vent. S'il y en a, bah, voilà, ça peut être une étape carnage. Et puis sinon, ce sera voilà, une petite procession jusqu'à un sprint royal. Et c'est d'ailleurs la seule étape vraiment toute plate de ce Paris-Nice avec probabilité d'un sprint massif en peloton complet très très forte. Donc il faudra en profiter pour les sprinteurs parce qu'ils n'auront peut-être pas énormément d'occasions. Troisième étape, et tout de suite on rentrera déjà dès ce début de Paris-Nice dans le dur du sujet, un contre-la-montre par équipe autour d'Auxerre. Donc on partira d'Auxerre et on reviendra dans la ville pour finir. Une bonne distance, puisque 27 km quand même pour une épreuve d'une semaine, c'est pas mal hein, quand même comme distance. Contre-la-montre par équipe, alors qui sera, on va dire, qui sera assez plat, même si voilà, on voit que dans la première partie du chrono, il y aura des petites bosses, mais voilà, rien de bien méchant, même si c'est vrai. Ouais, la deuxième fait quand même 2 km à 4,5-5%, donc attention quand même à ne pas perdre des équipiers là-dedans. On sait toujours que dans l'exercice chronométré et du chrono par équipe, dès qu'il y a une bosse, ça peut facilement désorganiser une équipe, mais toute la deuxième partie du contre-la-montre est en faux plat descendant jusqu'à retourner dans les rues d'Auxerre. Donc là, clairement, les gros rouleurs, les équipes qui vont venir avec des machines à rouler, elles feraient bien de les préserver et de rester unies dans cette première partie plus difficile, parce qu'ensuite elles pourront dérouler et envoyer les watts jusqu'à la ligne d'arrivée. En tout cas, voilà, ça sera vraiment le premier temps fort pour le classement général. Et petite information importante, si vous aviez déjà suivi Paris-Nice l'année dernière, c'est un contre-la-montre par équipe, mais ce sera le temps du premier coureur qui sera pris pour l'équipe et non le temps du quatrième ou cinquième coureur comme on a l'habitude de voir. Donc l'année dernière, vous avez pu voir que ça avait donné des stratégies assez différentes dans les équipes. On se souvient de l'équipe UAE qui avait lancé Pogacar, qui avait fini tout seul, Godu qui s'était accroché dans la route Stéphane Kung. Donc à voir voilà, les stratégies que mettront en place les équipes pour que les leaders voilà, fassent le meilleur chrono possible sur ces 27 km. Et puis, il ne faudra surtout pas se reposer pour les leaders, parce que dès le lendemain, deuxième gros temps fort du classement général, une magnifique étape, on peut le dire, entre Chalon-sur-Saône et le Mont-Brouilly, plus de 3000 mètres de dénivelé sur 180 km, et un enchaînement de bosses, alors cette fois-ci, voilà, qui seront bien plus dures que celles de la première étape. De la première étape, on sera beaucoup sur des bosses de entre 3 à 4 km à 6-7%. Il y aura même des bosses de 2 km à 9%. Donc voilà, le Mont-Brouilly qui va être répété deux fois dans l'étape, ça va être très très difficile. La course, à mon avis, devrait vraiment s'accélérer. Voilà, dans l'avant-dernière ascension du Mont-Brouilly, on sera à 40 km de l'arrivée et la course devrait se décanter ici, puisqu'elle est suivie ensuite du col du Fût d'Avenat. Qui est un col qui a été traversé, il me semble, plusieurs fois par le Tour de France. Et là, on est sur une vraie difficulté, hein. 5 km à 7,3% de moyenne. Donc voilà, il pourrait déjà y avoir des velléités dans ce col, puisqu'on sera plus qu'à une vingtaine de kilomètres de l'arrivée. Redescendre du col du Fût d'Avenat et on se présentera tout de suite au pied du Mont Brouilly. L'ascension finale, 3 km à 7,7% de moyenne. Donc une ascension vraiment faite pour les puncheurs grimpeurs, on va dire. Et vous verrez que quand on décrira le plateau, il y en a des puncheurs grimpeurs sur ce Paris-Nice. Donc voilà, il faudra, vous me direz ce que vous en pensez après, mais à voir si, étant donné que c'est la première étape vraiment difficile, les leaders oseront se découvrir de loin, ou alors est-ce qu'ils attendront la toute dernière ascension du Mont Brouilly. En tout cas, il devrait y avoir du spectacle ce mercredi 6 mars sur les routes de Paris-Nice. Et puis ensuite, on va enchaîner avec deux étapes pour baroudeurs et sprinters. C'est-à-dire que entre le jeudi, entre Saint-Sauveur de Montagu et Sisteron, on aura une étape pas très compliquée, mais quand même avec des petites bosses par-ci par-là. Un final, pas très difficile, mais au milieu de l'étape, il y a cet enchaînement de petites difficultés qui n'a rien d'insurmontable. Mais est-ce que déjà, en milieu de semaine, avec des organismes fatigués, les équipes de sprinteurs sauront contrôler l'échappée? Ça reste à voir. Toujours est-il que s'il y a une deuxième étape à prendre pour les sprinteurs, ce sera peut-être celle-là. Et puis celle du lendemain, qui arrive à la colle sur loup, elle est un petit peu plus difficile, je trouve, avec des ascensions un peu plus pentu, notamment à une trentaine de kilomètres de l'arrivée. Là, on a 2 km à 10% de moyenne. Donc là, ça devrait être difficile pour les sprinteurs de passer. En tout cas, cette étape du vendredi là, qui arrive à la colle sur loup, c'est sûrement l'étape pour les baroudeurs qu'en tout cas énormément doivent avoir coché dans leur calendrier sur ce Paris-Nice. Donc il devrait y avoir du beau spectacle. Et puis, pour terminer, le diptyque de fin, le samedi 9 mars, l'étape entre Nice et Auron. Alors là, une étape de montagne classique, c'est-à-dire que on aura un col, le col de Saint-Martin, la Colmiane, en plein milieu d'étape. Mais à mon avis, tout devrait se dérouler dans la dernière ascension finale de la course, la montée d'Auron, 7 km à 7,2%. Donc voilà, une vraie course de côte de grimpeurs. Les favoris devraient vraiment se jouer ce Paris-Nice ici. Et s'il reste des écarts très serrés et quelques coups de seconde, la course pourrait jouer à coups de seconde le lendemain, puisqu'entre Nice et Nice, on aura une étape accidentée, la traditionnelle étape de fin de Paris-Nice, seulement 110 km, mais un enchaînement de côtes, la côte de Berre, les Alpes, le col de Peille. Enfin, vous connaissez bien cette côte de Peille, parce que Contador, dans ses grandes années, attaquait souvent dans cette côte sur Paris-Nice pour tenter de renverser le général. Et puis pour finir, le col des quatre chemins, voilà, abordé par une partie très difficile à près de 15%. Donc voilà, une étape toboggan, montagne russe, qui s'achèvera dans les rues de Nice et qui ne sera pas sans nous faire penser à l'étape finale du Tour de France qui arrivera également par Nice en passant par le col d'Est. Donc non, voilà, une belle dernière étape de Paris-Nice qui pourrait encore tout chambouler au classement général. En tout cas, moi, mon avis, c'est que c'est un parcours assez classique, mais en même temps assez intéressant pour un Paris-Nice. Je trouve qu'il y a vraiment qu'une seule étape plate et beaucoup d'étapes compliquées, donc la fatigue va beaucoup jouer. Voilà, donc un parcours très très dynamique. Déjà, je voulais savoir ce que vous deux vous en pensiez, et puis s'il y a parmi toutes ces belles étapes, il y en avait une qui avait retenu votre attention.
Je pense que dynamique, c'est le mot. Les étapes sont assez intéressantes dans leur profil, avec beaucoup d'étapes, j'ai envie de dire, où on a pas mal d'enchaînements. Ce qui est assez plaisant, puisque ça ouvre beaucoup la porte à pas mal de scénarios. Honnêtement, je pense que quand même, l'étape qui m'intéresse, qui me plaît le plus, en tout cas dans le profil, c'est cette étape qui finit au Mont-Brouilly, justement, avec à partir du kilomètre 80, 88, 90. L'enchaînement en fait de plusieurs petites montées au final 4 km à 6%, 6,7%, ensuite on a des passages à 9%, 7,7%. Enfin voilà, ça s'enchaîne pas mal et je trouve que ce genre d'étape sur un groupe d'échappés peut amener un scénario un petit peu voilà dans le doute jusqu'à la fin, c'est-à-dire qu'on peut vraiment s'attendre à tout dans ce genre d'étape, que ce soit aussi dans la bagarre entre les favoris peut-être à l'arrière. En tout cas, moi, c'est l'étape qui me plaît le plus sur le profil, sur le papier. Après, dommage, on en a parlé un petit peu en off, mais dommage qu'elle soit là que en milieu, enfin qu'elle arrive aussitôt en fait en milieu de Paris-Nice. Mais en tout cas, j'aime beaucoup ce profil d'étape, très punchy sur la fin et qui ouvre beaucoup de possibilités en termes de scénario.
C'est vrai que c'est une étape intéressante. Elle me fait un petit peu penser dans sa philosophie à la fameuse étape des murs qu'il y avait. Genre là, c'est peut-être pas aussi exigeant que sur la course italienne, mais c'est vrai que cette étape, elle est intéressante. Mais moi, sur Paris-Nice, mon étape préférée, ça reste la dernière étape. Depuis qu'ils ont ce parcours, cette étape courte là, qui fait même pas 110 km, avec un enchaînement de montées, on a toujours vu des étapes spectaculaires. On se souvient d'attaques et notamment avec Contador, dont on a parlé tout à l'heure, où le général se jouait à rien. Et je trouve que jusqu'à cette dernière étape, et je pense que cette année, ça va être quand même très, très serré. Ça, on va en parler tout de suite avec nos favoris. Et je pense vraiment que cette dernière étape peut être un gros game changer. Donc moi, ouais, c'est vraiment celle-là que j'attends avec le plus d'impatience sur Paris-Nice, beaucoup plus que celle de la veille, qui en général. Alors, c'est assez classique, hein, là, la semaine dont. Dans son avancée, dans comment est-ce que les étapes se présentent. Et la veille, l'étape du samedi, ça ressemble quand même beaucoup à une course de côte où on pourrait allumer la télé à 10 km de l'arrivée et puis on a rien loupé. Le dimanche, c'est pas du tout le cas et on est même dégoûté que la retransmission commence si tard en général, parce qu'il s'est déjà passé plein de trucs avant la prise d'antenne. Donc ouais, moi, gros gros hype sur cette dernière étape.
Ouais, bah je suis d'accord avec toi, juste pour conclure. Ouais, je suis d'accord avec ce que dit Poppy aussi. C'est, tu vois, j'aurais bien aimé cette étape d'Oron là, bah voilà, en milieu de semaine, pour décanter la course juste après le chrono et créer des écarts, et puis que l'étape du Mont-Brouilly, si tu vois, peut-être le samedi avant celle de Nice, c'est Parce qu'on fait, en fait, on sait ce qui va se passer. L'étape du Mont-Brouilly, ça devrait se jouer dans le Mont-Brouilly. Et du coup, l'étape d'Oron, c'est déjà quasi sûr que ça se jouera dans Oron. Donc, ça aurait créé un peu plus d'incertitude. Mais à part ça, voilà, c'est un très, très beau parcours, mine de rien. Je trouve qu'il n'y a aucun jour où on devrait s'ennuyer. Et puis, même sur l'étape qui est vraiment toute plate, s'il y a du vent et on peut l'espérer, bah, voilà, ça va être super. Donc, de toute façon, Paris-Nice, c'est toujours une très belle course pour lancer la saison World Tour. Donc, j'ai. Non, très, très content du parcours cette année.
Et ben maintenant qu'on a bien décortiqué le parcours, on va pouvoir passer à nos listes de favoris. Donc, on va dans un premier temps vous présenter le coureur que l'on voit gagner. Alors, qui veut commencer?
Vous voulez?
Vas-y, j'y vais. Puisque moi,
Allez, fonce.
j'ai pas pris beaucoup de risques en fait hein, pour donner mon favori, mais mon favori ce sera Primoz Roglic. Pourquoi Primoz Roglic? Bah, enfin, sans m'étendre trop longtemps, c'est l'as des as sur les courses d'une semaine. Il les a quasi toutes gagnées. Je crois qu'il lui a manqué qu'un seul Tour de Suisse dans toutes les courses par étapes World Tour d'une semaine qu'il a disputées. Il maîtrise son sujet. Voilà, il sera à la tête d'une équipe Bora avec notamment Alexander Vlasov en lieutenant de luxe qui pourra créer des mouvements pendant que lui sera dans son rôle préféré, celui de sniper dans le peloton, suivre les autres et à flinguer. Voilà, les ascensions d'Oron ou du Mont-Brouilly, elles lui conviennent parfaitement. Voilà, c'est des ascensions qui restent assez courtes, assez pentues. C'est parfait pour lui. Voilà, je pense que la Bora, ils ont montré cette année qu'ils avaient une grosse équipe à voir avec qui ils vont venir exactement en plus de lui et de Vlasov. Et ce que ça peut donner par rapport aux autres favoris, et notamment à l'autre favori dont vous allez parler après, Remco Evenepoel, sur le contre-la-montre par équipe, c'est peut-être l'interrogation. Je pense que Roglic, le meilleur format pour lui, c'est s'il peut être devant les autres favoris au soir du Mont-Brouilly. Et donc, ça veut dire avoir fait un bon chrono la veille pour ensuite être dans une position plutôt défensive. En tout cas, de par son histoire avec les courses d'une semaine, de par son profil et de par le profil de Sparini, je trouve que voilà, Primoz Roglic, c'est l'assurance tout risque en termes de victoire sur les courses d'une semaine comme Paris-Nice. Donc, même si il n'a pas eu de chance sur cette course par le passé, il a réussi il y a 2 ans à conjurer le sort. Donc, si tout se passe bien, moi je le vois quand même comme le grand favori. Il sera pas forcément spectaculaire, mais il sera là au rendez-vous et il marquera les points quand il faudra et il ira chercher avec quelques secondes d'avance ce Paris-Nice. Donc pour moi, je vote Primoz Roglic.
C'est vrai que c'est assez impressionnant quand on se retourne rien que sur sa saison 2023, puis les saisons précédentes aussi, mais l'année dernière, il fait sa rentrée à Tirreno, il explose tout le monde, il gagne 3 étapes, il remporte le général. Après, il enchaîne avec le Tour de Catalogne où il bat Remco Evenepoel d'ailleurs dans un formidable duel. Et ensuite, après, il enchaîne avec le Giro. Après, post-Giro, reprise, Tour de Burgos, bam! Il claque le Tour de Burgos. Il fait 3 de la Vuelta derrière ses 2 équipiers. Et ouais, non, clairement, Roglic. Alors, la petite interrogation pour Roglic, c'est son changement d'équipe, et ça, on a tous hâte de le voir avec la Bora. Est-ce que ça va aussi bien tourner qu'avec la Jumbo? Pour moi, c'est vraiment le seul point d'interrogation, outre le fait que maintenant il a 34 ans, Roglic, donc, à voir à partir de quel moment est-ce qu'il aura une suite de carrière à la Valverde, ou est-ce que son déclin arrivera un petit peu plus tôt? Ça, on ne sait pas. En tout cas, on lui souhaite que ça arrive le plus tard possible. Mais oui, c'est sûr que Roglic, une bonne assurance sur ses courses d'une semaine, Paris-Nice qu'il a remporté en 2022 après avoir été presque maudit hein, sur ces dernières étapes, et j'en parlerai tout à l'heure, mais moi je pense justement que Roglic peut-être tout perdre sur cette dernière étape, mais ça, je vais déjà laisser Poppy que tu nous dises ce que tu penses de Roglic.
Bah, valeur sûre, hein, Primoz Roglic, Tiziana a dit sur les courses d'une semaine, il est vraiment plus qu'impressionnant. Mais c'est vrai que ce changement d'équipe, bah, ça reste intéressant. C'est voilà, l'équipe Bora, c'est pas l'équipe Jumbo Visma, enfin maintenant Visma Lizobike. Mais voilà, je pense que c'est là le gros facteur intéressant de la course. Il y a aussi des adversaires qui sont là. On sait comment fonctionne Roglic sur ce genre de course, donc voilà, il va être surveillé, il va être à surveiller, et ouais, c'est clairement l'un des favoris de la course, si ce n'est le favori de la course.
Eh ben moi, Je vais vous. Si on a fini sur Roglic, je vais présenter son principal adversaire, selon moi. Je veux bien sûr parler de Remco Evenepoel. Alors, Remco Evenepoel, on sait qu'il a pour objectif en cette année 2024 le Tour de France. Et ben, il va faire pour la première fois une course par étape en France avec Paris-Nice cette année. Donc, ça, une découverte même des routes françaises, hein, quasiment. Donc ça va être intéressant de le voir surtout face à Roglic parce que pour moi il a déjà montré qu'il était hyper en forme là dans sa rentrée au Portugal vraiment sur le Tour d'Algarve il a été excellent. Alors après battu sur les deux arrivées au sommet par Martinez, oui. Mais ouais, je pense que Remco il a un petit avantage par rapport à Roglic. Pour moi, je le vois sur cette dernière étape où je vois bien justement Remco peut-être aller qui aura eu un petit peu de retard, notamment sur les étapes qui correspondent plus à un puncher où Roglic sera peut-être allé chercher quelques bonifs, peut-être qu'après le chrono il y aura eu des secondes d'avance pour Roglic, encore que bon ça on sait pas forcément parce que à la Soudal Quick-Step il y aura des gars comme Cataneo ou Lampaert qui roulent aussi très fort, donc c'est pas dit que qu'Evenepoel ne gagne pas du temps sur Roglic. Mais en tout cas cette dernière étape autour de Nice, là, que j'aime beaucoup, je pense qu'elle peut favoriser une offensive de loin d'un coureur comme Remco, qui pour moi serait plus à même de faire ça et de tout tenter pour reprendre le maillot à Roglic dans le final. Et ouais, sa forme est hyper rassurante et voilà, ça reste Remco Evenepoel qui peut quand même attaquer n'importe quand. Et pour le coup, on est aussi, tout comme Roglic, sur une belle référence sur les courses d'une semaine. Donc, ça va être hyper intéressant de voir ce duel, surtout qu'on va être sur des profils variés tout au long de la semaine, hein, entre l'arrivée au sommet qu'on aura le samedi à Oron, des étapes plus pour puncher comme on aura au Mont-Brûlis. Donc, voilà, mais moi, pour moi, un petit avantage à Roglic, mais je pense que ça sera vraiment à Evenepoel. Oh, le lapsus.
Ouais.
À Evenepoel, mais je pense que voilà, face à Roglic, ça sera serré jusqu'à la fin de la dernière étape.
Non.
Ouais, c'est sûr. Vas-y, Titien, vas-y.
Non, non, vas-y, t'étais lancé.
Et bah ouais, j'allais dire le profil s'y prête bien pour Remco, notamment dans cette dernière étape, avec bah, des bosses assez courtes, enfin des montées assez courtes et assez pentues. Il est capable de partir de loin, hein. On l'a déjà vu sur Liège-Bastogne-Liège une année et sur d'autres courses également. Voilà, je pense que le duel va être là entre les deux. C'est vrai que sa forme sur le début de saison, et comme tu l'as dit Adri, elle est rassurante, hein. De toute façon, le pic de forme de Remco, il est attendu pour le tour. Donc voilà. Après avoir, hein, c'est la première fois qu'il arrive sur Paris-Nice face à un mec comme Roglic qui lui connaît bien la course, connaît bien aussi les difficultés qu'il peut y avoir. Ça va être assez intéressant, mais je pense quand même qu'il reste un cran un petit peu en dessous de Roglic, parce que pour moi, Roglic est capable quand même de suivre Evenepoel sur des attaques. En tout cas, il est capable d'être là, de répondre. Et en fait, bah, même si Evenepoel a tout à jouer, il a quand même aussi tout à perdre, je pense. Roglic, il a entre guillemets plus rien à prouver maintenant, même si voilà, tu es dans une nouvelle équipe, il faut quand même. Entre guillemets, je pense affirmer un statut et voilà, je pense que Roglic a pas envie de dire bah a pas envie qu'on dise plutôt que ses résultats étaient dus à son équipe. Donc, non non non, je pense que Roglic est capable de suivre l'attaque de Remco, il est capable aussi d'être intelligent, on le sait. Donc, ça va être intéressant la bagarre et comme tu l'as dit Adrien, hein, pour enfin jusqu'à la dernière étape, ça va être vraiment tendu entre les deux parce que sur le chrono, bah Roglic s'est roulé aussi, alors moins bien que Remco, mais c'est pas je pense pas qu'il y aura des écarts énormes à cause du chrono, en tout cas entre les deux.
Ouais, bah, moi, enfin, je rejoins un peu tout ce que vous avez dit, hein. Après, moi, j'ai dit Primoz Roglic, c'était mon favori, effectivement. Voilà, c'est quasi du, je dirais que c'est du 51-49 pour moi. Hein, parce que Remco, voilà, c'est un peu le même type de coureur, de course par étape d'une semaine, etc. Il y a deux choses, c'est que, bah, leur dernier affrontement à tous les deux, il me semble que c'est le Tour de Catalogne l'année dernière. Effectivement, c'était très serré, mais Roglic avait finalement battu Remco, donc ça lui donne quand même un petit avantage psychologique. Et puis,
Mais
deuxièmement, alors,
sur juste, je te coupe, oui, sur une semaine et sur la Vuelta et sur le Giro, c'est pas, il s'était affronté sur les deux grands tours l'année dernière,
Avec les
mais c'était aussi
circonstances
Roglic qui
qu'on.
était arrivé devant au classement et puis abandon de Remco sur le Giro.
Ouais, je sais pas si c'est comparable, mais en tout cas, sur une course d'une semaine,
Non, non, je pense
effectivement,
pas.
ils ont quand même cette référence sur une course World Tour et ils étaient très très semblables en termes de niveau. Et puis la deuxième chose, effectivement, alors je suis d'accord que la dernière étape avantage Remco. Attention quand même, parce que Remco, voilà, on a toujours un petit doute sur ses capacités de récupération. Et je trouve que Paris-Nice, c'est une course très dure. Faudra voir également la météo. Mais enfin, souvent, les états de forme, et c'est assez rare sur une course d'une semaine, sur Paris-Nice, il change beaucoup de. Enfin, je me souviens de Contador, les années où justement il fait sa remontada à la fin, bah, en début de semaine, il n'est pas du tout le plus fringant. Et en fin de semaine, avec ses super qualités de récupération, bah, c'était le plus fort, quoi. Donc, Remco, oui, il y a beaucoup d'étapes et notamment la dernière qui lui convient. Faudrait voir si effectivement c'est peut-être le coureur qui récupère le mieux ou alors si voilà, il peut encore avoir des problèmes de récupération qui fait qu'il ne peut pas totalement exploiter son potentiel. Enfin, moi, quand je l'avais vu, en fait, Remco à la Figueira Classique, là, en début d'année, la Classique au Portugal, qui avait explosé la concurrence, et ben, je m'étais dit, bon, au Tour d'Algarve, il va mettre 30 secondes à tout le monde dans les montées. Et puis finalement, en fait, tu te rends compte que. C'est pas tout à fait pareil sur les courses par étapes, voilà, et je pense qu'il doit y avoir aussi un facteur récupération qui rentre en compte. Donc, c'est pour ça que je me dis que, voilà, Primoz Roglic, avec son expérience, si, voilà, encore une fois, ça se trouve, il n'est pas du tout en forme ou son changement d'équipe, il va l'affecter, mais en partant du principe qu'on a toujours le même Primoz Roglic, je le mets un petit cran au-dessus de Evenepoel, mais en tout cas, ça devrait être un magnifique duel.
Mais ce duel va être arbitré peut-être par quelqu'un que tu vas nous présenter, Antoine.
Ouais, tout à fait. Moi, j'ai choisi Carlos Rodriguez. Carlos Rodriguez, qui est un coureur qui est encore jeune, c'est vrai. Mais au vu du dernier Tour de France, en fait, je pense qu'il a quand même acquis une certaine maturité maintenant. Voilà, on sait que Carlos Rodriguez, c'est un coureur qui pourra potentiellement aller jouer la victoire dans des grands tours. Et pour avoir, enfin, il faut passer par des courses d'une semaine comme Paris-Nice pour aller gagner des grands tours. Et je pense que voilà, même si les résultats sur le Gran Camino bah, laissent un peu à désirer pour Carlos Rodriguez, je pense qu'il a quand même cette faculté d'être capable de rivaliser avec les meilleurs. Voilà, c'est un coureur qui peut prendre les bonnes roues, qui est capable aussi de faire les bonnes échappées tout seul s'il faut. Voilà, Carlos Rodriguez, il peut perdre du temps, mais derrière, il peut aller le regagner ce temps sur une autre étape. Sur les montées, en tout cas, je le trouve très 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 bon. Il arrive facilement, on va dire, à trouver son rythme. Il est capable aussi d'accélérer quand il faut, de placer les bonnes attaques. Non, non, c'est un coureur qui, je pense, aura son mot à dire dans ce Paris-Nice. Les deux stars, on va dire, les deux favoris, ça reste Remco et Roglic, évidemment. Mais du coup, dans ce rôle un petit peu de troisième rideau, bah, je pense que Rodriguez, il est bien à cette place-là. Pour l'instant, il est bien à cette place-là parce que ça lui permet un petit peu, je trouve, d'avoir une certaine liberté, dans le sens où on sait qu'il est fort, mais il n'est pas forcément, enfin moi, je le vois pas forcément comme ultra attendu. Ce qui fait qu'en fait, il peut vraiment s'exprimer pleinement sur cette course. Et voilà, je pense qu'il est capable de tenir le rythme sur les différentes étapes. Sur l'avant-dernière étape, bah voilà, les montées longues, on sait que ça lui convient bien. Donc, je pense que ça peut être assez assez intéressant. Et pour l'étape 8, bah voilà, ça va être la grosse grosse bataille, une étape assez courte, mais je pense que Carlos Rodriguez, il est capable de justement bien gérer cette semaine de course pour arriver dans un bon état de forme à cette dernière étape. Et pourquoi pas, bah, être capable de suivre Remco et Roglic. Mais en tout cas, je pense qu'il peut vraiment avoir ce rôle ouais, d'arbitre, comme tu l'as dit, Adri, dans cette semaine de course.
Moi, je suis totalement d'accord avec toi. Bah, écoute, pour moi aussi, c'est s'il faut dégager un troisième homme, ce sera lui. D'ailleurs, c'est peut-être pour moi le seul dans la liste de départ qui peut rivaliser à la pédale avec les deux premiers. Je trouve que c'est un mec, voilà, je crois qu'il doit avoir 22, 23 ans, peut-être 23,
23.
qui monte en puissance chaque année. Il était très très fort au dernier Tour de France, mais on en a pas mal parlé déjà dans les émissions de preview. Carlos Rodriguez, et puis au-delà de ça, je trouve que c'est un coureur qui a une très bonne récupération et qui est très très endurant. Et pour le coup, sur un Paris-Nice où justement, souvent dans des conditions difficiles, avec un parcours très difficile qui fait que tu finis rincé à la fin de la semaine, bah justement, je pense que c'est un coureur qui est pas, tu vois, dans une dernière étape où beaucoup de coureurs pourraient sentir les effets. Voilà, je trouve très très bon, tu vois, dans les enchaînements de cols, dans cette capacité à avoir une bonne résistance, etc. Donc moi je suis bien d'accord et voilà, c'est impossible de le mettre au départ au même niveau que Roglic et Evenepoel à mon sens parce que c'est deux monstres qui ont un palmarès pour l'instant supérieur et qui sont également plus âgés. Mais Rodriguez, ouais, il pourrait très bien se révéler sur cette course au soleil, profiter d'un marquage. Autre atout qu'on n'a pas forcément mentionné encore pour lui, c'est que bah, il est dans l'équipe Ineos. Ineos, c'est quand même une équipe qui reste très très forte, notamment dans le contre-la-montre. Ils vont venir avec des bêtes à rouler, notamment la bête à rouler du moment, Joshua Tarling, qui pourrait emmener Rodriguez très 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 loin dans le contre-la-montre. Voilà, à mon avis, le mec, il a juste à se mettre dans la roue de Tarling et ça va aller très très vite. Donc voilà, il devrait en tout cas largement limiter la casse par rapport à Remco et Roglic sur le chrono. Et par contre, seul bémol pour lui, c'est que malheureusement, c'est pas un coureur qui a une pointe de vitesse ou c'est un coureur qui a pas beaucoup de punch en fait. Donc sur une course comme Paris-Nice qui se joue souvent à la seconde et où il faut, enfin voilà, faut savoir sprinter en haut des bosses et faut savoir faire la différence. Et à mon avis, c'est peut-être quelque chose qui peut lui manquer. Mais tu vois, dans mon scénario de course, je vois bien Rodriguez qui fait une très très grosse dernière étape et qui peut aller jouer les troubles faites. Donc je suis bien d'accord avec toi.
Ouais, je suis d'accord avec vous dans l'ensemble. Après, je suis juste pas rassuré par son début de saison. Il nous a pas habitués comme ça à passer à côté de courses d'une semaine. Il avait l'habitude sur les 2 dernières saisons d'être très régulier. Et là, alors bon, on sait qu'au Grand Camino, les conditions de course étaient très difficiles. Et pour une reprise, ça lui a peut-être pas forcément convenu. Mais voilà, le petit bémol est à voir. Et c'est pas dit que sur Paris-Nice, des fois, on a quand même un temps tout pourri aussi. Donc à voir comment il aura récupéré de cette semaine-là, et puis voilà, donc quel état de forme il se situe là. Après, c'est pas si par malheur pour lui il passe à côté de son Paris-Nice, ça remet pas du tout en question ses compétences et sa capacité d'arriver après en forme au Tour de France. Mais voilà, c'est pas pour l'instant. Ouais, moi je suis pas hyper rassuré par sa condition. Donc je vais suivre ça avec intérêt, bien sûr. Ben voilà, on a fait le tour de nos favoris. Maintenant, les outsiders. Titien, quel est ton outsider?
Bon, c'est bon, moi j'en ai déjà parlé puisque j'avais mis Carlos Rodriguez, voilà, comme principal outsider derrière les favoris. Donc
Bon.
pas plus à dire, j'attends les vôtres avec impatience maintenant.
Eh ben, il y a une logique. Bah, du coup, Poppy, tu peux enchaîner alors avec ton outsider.
Et bah allons-y, allons-y. Moi, mon outsider, j'ai choisi un coureur qui m'a pas mal impressionné sur cette dernière course, c'est Peyo Bilbao. Peyo Bilbao, on connaît, hein, voilà, profil du grimpeur espagnol. Mais sur l'UAE, dans la dernière étape, je l'ai trouvé assez impressionnant. Voilà, c'est lui qui allait à l'attaque, c'est lui qui tentait. Alors oui, il était derrière O'Connor qui était leader virtuel, mais voilà, il a osé. On sait qu'il a un bon coup de pédale aussi. C'est un peu le même profil que Rodriguez en fait, mais en moins jeune, j'ai envie de dire. Voilà, ce profil du grimpeur qui peut tenir, enfin qui tient correctement dans les montées un petit peu longues, un petit peu plus de difficulté dans le punch, mais je trouve qu'il a cette bonne forme. En tout cas, au vu de l'UAE Tour qu'il a proposé, il a cette bonne forme et il a une équipe autour de lui qui est quand même assez intéressante avec Jack Egg et puis la Bouître qui vont être là pour l'aider en montagne. Voilà, je pense qu'il aura un petit peu cette capacité à voilà, être aussi un petit peu en troisième rideau comme Carlos Rodriguez. Alors je le mets quand même un petit peu derrière. Évidemment, mais c'est un coureur aussi qui est capable de prendre les échappées, souvent les bonnes échappées. Non, non, c'est un profil qui est vachement intéressant pour Sparini. Et moi, je pense que Peo Bilbao, il est pas oublié dans cette course-là. Alors après, je sais pas si la Bahreïn va plutôt jouer sur Buitrago ou pas, mais en tout cas, si Bilbao est le leader désigné, je pense vraiment que ça peut être très intéressant de le suivre sur cette course.
C'est intéressant avec ce qui est intéressant avec Bilbao, c'est que c'est vraiment aussi un coureur de course par étape d'une semaine. Sur les grands tours, il n'a jamais forcément été en lutte pour un podium au général, par exemple, mais sur les courses par étape d'une semaine, il est. Alors c'est pareil, il est jamais là pour la victoire, mais il est toujours hyper bien placé, il a un paquet de podiums au général aussi, et pour le coup, c'est un coureur qui a l'habitude de réussir ses débuts de saison. Alors on le voyait plus ces dernières années sur Tirreno, je crois que c'était le 2020, la dernière fois où il est venu sur Paris-Nice. Mais ouais, c'est clairement une bonne cote. Lui, on a l'impression que vraiment les années passent, mais ça change pas du tout sa façon de courir et ses capacités. Et pour le coup, je suis ouais, pareil, bien pas impressionné, mais
Ouais, il est
agréablement
bien.
surpris en début de saison. Il est voilà, sur l'UAE, comme tu l'as très justement dit, il a été bien en canne sur cette dernière étape. Donc à voir, et je pense que Paris-Nice, c'est une course qui lui correspond bien en termes de profil. C'est pas un pur grimpeur, mais il sait être à l'aise dans les cols. Il a quand même du punch, il a une pointe de vitesse pour pouvoir gagner des étapes sur un petit groupe à régler au sprint, par exemple. Et ça peut bien se passer, donc pourquoi pas une petite surprise Peyo Bilbao. Ouais.
Ouais, voilà, comme vous avez tout dit, hein, c'est un coureur très régulier, effectivement qui a du punch, etc. Donc qui pourra limiter la casse dans les ascensions. Donc c'est un candidat en tout cas assez sérieux au podium derrière les deux fantastiques. Et puis Bilbao, c'est également un très bon descendeur. Et attention à lui, par exemple, sur une dernière étape, où voilà, des conditions où c'est tout mouillé, où personne ne veut prendre de risques dans les descentes, bah, c'est vite une étape où un coureur comme lui qui sait prendre des risques peut faire la décision. Donc effectivement, c'est un parcours qui lui va bien. Lui aussi, je trouve qu'il monte en puissance au fur et à mesure des jours de course. C'est un coureur qui a une très bonne récupération. Donc voilà, à ne pas sous-estimer. En tout cas, il est pour moi dans cette grappe de 3-4 coureurs qui peut largement penser au podium sur ce Paris-Nice.
De mon côté, mon outsider pour ce Paris-Nice, c'est un coureur de la Décathlon à G2R, la mondiale, et c'est Félix Gall. Alors Félix Gall, il a été très discret en ce début de saison. Alors il était prévu sur la Ruta del Sol, qui finalement s'est transformé en contre-la-montre de 5 km. Donc là, il n'a pas pu avoir ses premiers jours de course. Mais il a fait quand même une belle faune Ardèche classique où il était à l'avant, il était dans le coup pour la victoire. Donc enfin, c'était hyper rassurant pour moi de le voir là et en forme dès le début de saison. Et je pense clairement qu'il a franchi un cap l'année dernière, notamment avec son très beau Tour de France et son très beau Tour de Suisse également. Et je pense que ça va vraiment être une année de la confirmation pour Félix Gall. Alors même si c'est plus un profil pur grimpeur, voilà, contrairement à Peyo Bilbao, Félix Gall, il s'éclate un petit peu plus quand la montagne est très haute. Je pense que ça va quand même intéressant de le voir à la fois en tant que leader de sa formation et puis pour voilà, le fait d'avoir le général sur les épaules et puis de se frotter aussi à des coureurs du top niveau mondial comme Roglic et Evenepoel. Et je pense qu'il peut vraiment très bien se débrouiller, et pour moi c'est clairement un candidat au podium aussi. En tout cas, je pense qu'il en sera pas loin à Nice. Ouais, voilà, je sais pas ce que vous pensez, vous, des chances de Galles sur cette édition de Paris-Nice.
Ouais, Félix Gall, pourquoi pas. Enfin, j'en reparlerai un peu après, mais il y a un coureur chez non, non, j'ai rien dit, c'est pas la même course, pardon. Non, non, mais ouais, Félix Gall, c'est le bon profil aussi. Il a aussi ce bon punch qui est intéressant. Voilà, après, je sais pas trop comment l'attendre sur une course comme ça. Je sais pas trop comment le placer non plus par rapport aux autres coureurs qui sont prévus, on va dire, pour aller jouer la gagne et un peu les troubles faits. Mais voilà, Félix Gall, il est quand même, il faut quand même s'en méfier. Ça grappe bien, ça a le bon punch, ça peut rouler aussi. Donc non, non, franchement, c'est un profil qui est assez intéressant, en tout cas pour, bah voilà, pour dynamiter cette course. Et bah, on ne sait jamais, hein, si Félix Gall est dans la bonne échappée et qu'il prend de l'avance et qu'il peut gratter 1 minute ou 1 minute 30, bah voilà, c'est un coureur qui peut aussi s'accrocher pour aller jouer un podium. Donc non, non, va falloir quand même faire attention à Félix Gall.
Bah pour le général, j'ai quand même du mal à y croire. Va falloir déjà qu'il. C'est quand même un pur grimpeur, hein, Félix Gall. Et pour moi, Paris-Nice, c'est pas non plus une course de grimpeur. Il faut savoir grimper, mais en ce début de saison, il faut savoir être un peu tout terrain. Enfin, souvent, c'est voilà. Et j'ai peur qu'il ait un peu le syndrome Alberto Contador et que en début de course, voilà, ce soit difficile pour lui. Et surtout que Gall, bah voilà, sur le plat, par contre, c'est pas un de ceux qui se débrouillent le mieux. Faudra voir comment il passe les 2 premières étapes, les pièges, s'il y a des bordures, je suis pas sûr que ce soit le coureur qui s'en sorte le mieux là-dedans. Je sais pas, le contrôleur de par équipe, alors certes, tous les AG2R, ils volent depuis le début de l'année, mais je pense quand même que l'équipe va perdre beaucoup, beaucoup de temps par rapport aux grosses cylindrées du peloton. Donc j'ai peur que ça le mette déjà loin au classement. Et que malheureusement, ensuite, les côtes qu'il y a sur ce Paris-Nice soient pas assez longues pour un coureur comme Félix Gall, même si voilà, peut-être pour une victoire d'étape, un top 5, voilà, mais en fait, je sais pas, tu vois, on m'aurait dit un tour de Catalogne, un tour de Romandie ou un tour du Pays Basque, bah oui, mais un Paris-Nice, je sais pas si c'est forcément une course adaptée à Félix Gall, donc maintenant à lui de me donner tort, mais j'ai du mal quand même à y croire, moi, à ce coureur sur une course comme Paris-Nice.
Ok, et eh ben on verra. En tout cas, je pense que ça va quand même être intéressant de l'observer, même si c'est sûr que c'est pas forcément ce qui correspond le plus à son profil. Bah voilà, face à des gros leaders, et je pense qu'en termes de prise d'expérience aussi en vue des grands tours,
Ah oui, c'est sûr.
ça il va falloir qu'ils s'en servent. Et ben on peut passer à nos surprises potentielles, nos une étoile. Ticien, hein, quel est le coureur que tu vois nous surprendre cette semaine?
Bah, nous surprendre, je sais pas. En tout cas, moi, je me vois pas parler d'une course comme d'une course World Tour de ce niveau-là sans mentionner l'équipe Jumbo, enfin l'équipe Visma Lease the Bike, pardon. Et pour l'instant, on l'a pas fait. Il faut toujours se méfier de l'équipe Visma Lease the Bike, même quand leurs top leaders sont pas là. C'est pour ça que moi, ma grosse cote, on va dire, pour un podium carrément sur ce Paris-Nice, c'est Matteo Jorgensen qui a fini dans le top 10 l'année dernière quand ils ont encore parti de l'équipe Movistar, qui est très très fa qui était très très fort enfin voilà bah déjà en fait j'ai du mal à considérer que il y aura pas un coureur l'équipe Visma pour jouer les tout premiers rôles et lui ça me semble le plus indiqué dans l'équipe pour le faire. Il a l'expérience, une course comme Paris-Nice, les premières étapes, il va très très bien les passer. On l'a vu là sur les classiques comme le Nieuwsblad ou Kuurne. Bah, voilà, il est sur le plat, dès qu'il y a du vent, etc., il est là. Il est très costaud. Le contre-la-montre, on connaît la Visma Lease the Bike, ça va aller très très vite et il devrait en ressortir très bien placé. Je pense que c'est un très bon spécialiste de la moyenne montagne. Et puis, comme je disais, pour moi, Paris-Nice, c'est. Voilà, on a vu des mecs comme Benoît, par exemple, les années d'avant, qui étaient très très forts à Paris-Nice. Des mecs un peu comme ça, comme Søren Kragh Andersen, qui ont réalisé des excellentes performances. Donc, pour moi, c'est aussi une course un peu de gazier, de mecs hyper costauds, hyper endurants et un peu tout terrain. Et pour moi, Matteo Jorgensen, il remplit toutes les cases. Je pense qu'il a passé un gros step. Bon, on l'a vu déjà, il était impressionnant sur les Flandriennes. Et ouais, je les vois bien avoir passé ce palier qui va lui permettre, là, ici, d'accrocher. Alors, à minima, un top 5 pour moi. Mais peut-être même un podium. Tout dépendra de son début, en fait, de Paris-Nice. Mais. Ouais, enfin moi je voilà, je le vois bien en tout cas comme la surprise pour aller battre des mecs plus attendus comme Bilbao, Rodriguez ou Skelmos par exemple et aller chercher le podium, il sera très bien entouré. Donc ouais, moi je vote Matteo Jorgensen pour la grosse cote et j'annonce même un podium de Matteo Jorgensen sur ce Paris-Nice.
Ouh, ça y est,
Le voyant.
ça y est, tu t'es,
Ouais.
ça y est, tu t'es enflammé, ça y est, tu t'es
Ah,
emballé.
il faut
Et
s'enflammer, il
voilà,
faut du panache, du
tout était
panache.
bien, tout était bien, Titien, sauf
Tout allait pas trop mal jusque-là, et là, bam,
nouveau
on finit
podium.
sur un podium de Jorgensen.
Non, mais en vrai, Jorgensen, c'est le profil aussi très intéressant. Quand on le voyait chez Movistar, c'était vraiment le coureur qui ben, quand on le voyait courir, c'était vraiment. J'avais pas envie de dire impressionnant, mais tu vois, c'était. Voilà, ça peut grimper, ça peut rouler, ça a le bon punch aussi. Enfin, J'allais dire, c'est un Félix Gall en mieux, mais j'abuse un peu, je pense. Mais il a aussi ses qualités de descendeur, faut pas l'oublier. Enfin, Jørgensen, ça descend vraiment bien. Et ça aura son importance, je pense, dans ce Paris-Nice-là. Il est aussi dans une bonne équipe, qui a souvent des bonnes stratégies. Donc, non, non, c'est vraiment quelqu'un qui est très intéressant. Il a aussi ce côté un peu accrocheur, bagarreur, voilà, qui se donne à 200%. Moi, je me souviens de quand il chute sur une étape du Tour de France où, voilà, potentiellement, il pouvait aller chercher la gagne. Bah voilà, il continue quand même à se battre pour remonter seconde par seconde. Il lâche rien. Enfin voilà, c'est un coureur qui a vraiment, je trouve, un profil intéressant. Et on l'a vu sur les Flandriennes aussi, plutôt fort. Donc ça prouve qu'il est en forme en ce début de saison. Donc non, non, franchement, coureur à suivre aussi. Je suis d'accord avec toi, Titien. J'irai pas là jusqu'à le placer sur un podium, mais en tout cas, ça peut être la grosse cote de cette course.
Ouais, non, c'est vrai que en tout cas, il s'est très très bien intégré à sa nouvelle équipe. Hein, on l'a vu sur le week-end d'ouverture belge là. Il est à l'avant, Jørgensen, et puis voilà, il est offensif. Alors là, c'était sur un terrain de classique belge. On va voir sur Paris-Nice s'il est capable de faire. C'est vraiment un couteau suisse ce coureur. Il fait quand même 8e l'année dernière, donc c'est pas rien en finissant très bien, en faisant une belle dernière étape aussi. Donc non, non, c'est sûr que c'est un coureur qu'il faudra surveiller, qui sera parmi les tout meilleurs. Surtout que bah là, pour l'instant, alors là, à l'heure où on enregistre, enfin, sauf si vous l'avez, les gars, mais moi j'ai pas la compo définitive de la Visma. Mais voilà, on pense qu'il sera le leader. Donc bon, quand on est leader de la Visma sur une course d'une semaine, clairement, il y a de belles choses à faire. Il sera forcément bien entouré. Poppy,
Ouais.
comment vas-tu nous surprendre cette fois-ci?
Comment je vais vous surprendre? Eh bien, en sortant un nom que tout le monde connaît, j'ai choisi David Godu.
David Godu.
Et oui, David
Surprends-nous, hein.
Godu. C'est très, très la surprise. Non, non, je pense que voilà, David Godu, il peut aller faire de belles choses sur cette course. Je pense que la Groupama FDJ est en train de faire naître. Deux nouveaux coureurs, en tout cas qu'on commence à connaître depuis un petit peu. Je parle de Martinez et puis de Romain Grégoire. Et je pense que David Godu, du coup, absorbera moins de pression, même s'il sera toujours attendu sur des courses comme ça. Mais pour moi, il y a moins de pression dans le sens où tu as d'autres coureurs qui, derrière, peuvent s'aligner sur des courses et potentiellement dans le futur essayer de jouer la gagne. Ou en tout cas de jouer le classement général. Et en fait, j'ai l'impression que sur ce Paris-Nice, David Godu va avoir un peu les clés pour pouvoir s'exprimer. Pas forcément pour faire un général, mais en tout cas pour voilà, faire sa course, aller chercher potentiellement une victoire d'étape. Voilà, la Groupama FDJ, c'est quand même une équipe qui est plus que correcte, hein, faut pas non plus le nier. Godu, c'est un très bon grimpeur. On sait qu'il a aussi un punch qui est intéressant, capable de prendre les bonnes roues, capable de mettre les bonnes attaques s'il faut. Donc non, je pense qu'il a à suivre sur cette course. Et puis sur les courses d'une semaine, voilà, il est loin d'être ridicule, David Godu, je trouve. Donc voilà, je pense qu'il va être un petit peu, pas en roue libre, mais en tout cas avec un petit peu moins de pression sur cette course. Et je pense qu'il va avoir ouais, de quoi s'exprimer et de quoi rouler un petit peu plus sereinement. En tout cas, enfin moi, tu vois, quand je le vois sur la start list, je l'attends pas dans le général, mais je le vois quand même faire une belle course. Je sais pas si vous avez un peu ce ressenti-là, mais moi je le perçois comme ça et du coup bah, je m'attends vraiment à ce que Godu bah, nous dynamite la course et nous fasse de belles choses.
Moi, pas du tout.
Ok.
Non, mais en fait, pas du tout. Bah, déjà, par rapport à ce que tu disais là sur la pression, par rapport à l'émergence de Martinez et Romain Grégoire, moi, je pense au contraire que ça lui fout de la pression parce que c'est le risque qu'ils se disent, bah merde, attends, là, j'étais parti, il n'y a plus Pinot, j'étais parti pour être leader de mon équipe à 27 ans, je suis dans la force de l'âge. Et puis, en fait, là, je suis aligné sur la même course que Lenny Martinez. Et puis, en fait, bah, c'est lui qui fait podium entre Vingegaard et Bernal. Et puis, moi, je suis dans les profondeurs profondeur du classement. Donc, je pense que comme façon de commencer la saison, il y avait peut-être mieux à faire et moyen de se mettre dans de meilleures dispositions que ça pour Godu. Je pense pas qu'il soit à la ramasse, hein, et à mon avis, il sera pas à la rue sur ce Paris-Nice. Mais est-ce qu'il va pouvoir être au niveau qu'il avait eu l'année dernière, où il avait fait un super Paris-Nice, il avait terminé deuxième entre Pogacar et Vingegaard. Mais ouais, je sais pas vraiment si cette émergence de talent là dans la FDJ, ça va vraiment lui enlever de la pression. Moi, je pense au contraire que ça va lui mettre un petit peu plus de pression de résultat, et que s'il foire son Paris-Nice, très vite, les gens commencent à dire, alors pas forcément à raison, parce qu'on n'est pas sur les mêmes carrières et les mêmes évolutions de carrière, mais que les personnes commencent à dire, eh ben voilà, Godu, c'est fini, c'est foutu, il est plus leader, il y a meilleur que lui, il faut qu'il soit équipier, ou faut qu'il change d'équipe, ou je ne sais quoi. Donc, à voir, je pense que de la pression, il en aura, surtout qu'il a fait deuxième l'année dernière, donc il sera attendu. Il nous a déjà montré par le passé qu'il était capable de faire de grandes choses, hein, sur n'importe quelle course. Donc, on l'attend, mais je pense que là, il arrive à une saison qui est un petit peu charnière Godu. C'est-à-dire que s'il n'arrive pas à vraiment sortir des grosses, grosses performances auxquelles il nous a habitués, hein, et notamment sur cette très belle année 2022 où il gagne une étape du Dauphiné, où il fait quatrième du tour, ouais, clairement, ça peut être peut-être pas un tournant dans sa carrière, mais en tout cas, voilà, donner des indications un petit peu sur le futur. Et à mon avis, Godu, il a un petit peu de pression quand même, et à voir comment est-ce qu'il va gérer ça sur cette semaine Paris-Nice, qui est en tout cas le premier gros rendez-vous de sa saison.
Ouais, vous avez tout dit. Je suis assez partagé. D'un côté, je l'attends pas du tout. Mine de rien, ça fait un an qu'il a fait sa grosse performance sur Paris-Nice l'année dernière, et puis depuis, pas grand-chose. Écoute, en fait, j'en attends rien, donc genre, ouais, voilà, qu'il me surprenne, et je serais agréablement surpris s'il retrouvait un. Enfin, il a vu ce qu'il a fait les dernières, finalement, le potentiel est là. Donc, à lui d'arriver à retrouver ce niveau qui lui a permis de faire ce Paris-Nice. Mais je l'attendais pas non plus forcément fort l'année dernière. Et puis, il était très très fort. Donc, écoute, j'en attends rien. Donc, j'espère pour lui qu'il va me surprendre et qu'il va retrouver un super niveau qui va lui permettre de jouer le podium. En tout cas, pour moi, si David Godu, sur une course comme ça, il peut pas jouer classement général, ce serait quand même décevant. La petite faille par rapport à l'année dernière dans l'équation pour lui, c'est que j'ai l'impression que cette année Stéphane Kung n'est pas au départ. Et l'année dernière, Stéphane Kung, je sais pas si vous vous souvenez, mais il l'avait tracté pendant le chrono. Enfin, Godu, il était dans sa roue, il était à plat la latte pour le suivre là. Et Kung, il avait fait un super chrono cette année. Bah, mine de rien, venir sans Stéphane Kung, bah, c'est une grosse perte pour le chrono. Donc, ouais, il va falloir être fort pour David Godu, parce que je trouve qu'il a quand même moins d'armes, en tout cas au départ cette année, que l'an passé. Donc, comme j'ai dit, à lui de me surprendre, mais j'en attends pas forcément grand-chose, à vrai dire.
Eh bah, on verra en tout cas la performance de David Godu. De mon côté, alors moi, c'est pas un potentiel vainqueur surprise, je ne pense pas, mais c'est quelqu'un que j'ai revu à l'avant là sur l'UAE Tour, et puis qui me plaît bien, et je pense que cette année il va pouvoir refaire le genre de performance qu'il a réalisé notamment en 2021. Je parle de Michael Storer de l'équipe Tudor. Qui a été plutôt en vue. Alors, c'est un très bon grimpeur. On se souvient l'avoir vu sur la Vuelta, notamment en 2021, où il remporte deux étapes, il finit meilleur grimpeur. Après, il s'est peut-être un petit peu perdu à la FDJ. Mais là, j'ai l'impression, en tout cas, vu son début de saison, qu'il a à nouveau un peu plus de liberté, et que ça lui convient sûrement mieux. Alors, je n'attends pas de lui un podium ou autre, mais je pense qu'il peut être bien en vue sur certaines étapes, qui va tenter sa chance, qui va pouvoir, pourquoi pas, partir dans des échappées. Et voilà, plus qu'un vainqueur potentiel, c'est un peu plus un renouveau d'un coureur de 26 ans, très bon grimpeur, qui peut faire encore, je pense, de belles choses dans une équipe Tudor au profil intéressant, qui a rien à perdre. Et je pense que c'est justement cette liberté un petit peu qui retrouvée qui peut lui faire faire de grandes choses. Donc voilà, pas d'attente particulière, si ce n'est d'être agréablement surpris par l'Australien.
Ouais, bah c'est ce qu'on va attendre de lui. En tout cas, de toute façon, l'équipe Tudor, ils vont être là en grande partie, je pense, pour jouer les sprints. Après, il n'y en a que deux, donc ça va être un peu vite réglé. Ouais, il aura de quoi s'exprimer lui aussi. En tout cas, ça va être intéressant de voir comment il va se placer dans cette course. Puisque oui, comme tu l'as dit, hein, sur l'UAE, il finit vraiment fort. Donc ça va être assez intéressant de le suivre lui aussi.
Ouais, je suis d'accord. Moi, je le vois bien un peu largué au classement général après les premières étapes et pourquoi pas aller chercher une belle étape en échappée, là, soit sur les étapes sur baroudeur qu'il va y avoir à la fin, soit carrément sur la dernière étape, ça pourrait bien lui convenir. Donc attention à lui. Comme tu dis, j'y crois pas trop pour un classement général, mais se glisser dans une échappée et aller gagner une belle étape vallonnée, pourquoi pas. Donc à suivre.
Juste avant de se quitter, rapidement, messieurs, on fait un petit point sur les sprinteurs ou animateurs de la course, parce qu'on a vu qu'il n'y a qu'une étape qui devrait potentiellement arriver au sprint. Voilà, un petit nom comme ça à retenir, à mentionner. Qui est-ce qui va briller sans que ce soit un animateur du classement général?
Oh bah moi j'ai envie de te dire Mats Pedersen. Pourquoi? Parce que alors certes il n'y a qu'une étape toute plate, mais il y en a quand même 2-3 qui peuvent arriver au sprint, même si ce sera peut-être pas un sprint avec tout le monde. Toujours est-il que Mats Pedersen, il sprint, il passe bien les côtes, il passe bien, enfin en tout cas la petite montagne, on va dire, il roule très bien. Pour moi, on va le voir à l'avant, à part le dernier week-end, on va le voir à l'avant de la course tous les jours. Je le vois bien repartir au minimum avec une victoire d'étape, peut-être deux si. Voilà, peut-être le maillot de le maillot là, le maillot du classement par points. Donc non, Mats Pedersen, je pense qu'on va le voir un peu partout, vu ce qu'il a fait là en début de saison là sur le tour
Ah, il est
de
pas
la
mal son début
Provence
de
et l'étoile des
saison
Bessèges,
à Pedersen.
même si c'était pas une même si c'était pas des courses hyper avec un niveau hyper relevé. En tout cas, il était très très solide. J'ai l'impression que d'année en année, il est de plus en plus solide. Ouais, moi je vois bien repartir avec pas mal de choses de ce Paris-Nice Pedersen. Donc s'il y a un coureur à suivre, je mise sur lui.
Ouais, moi je suis bien d'accord avec toi. C'est aussi le coureur que j'avais ciblé. Et je pense que voilà, sur les deux dernières éditions de Paris-Nice, il a à chaque fois gagné une étape. Et à mon avis, il y a quand même de grandes chances qu'il y arrive à nouveau cette année.
Puis il a un super maillot en plus, hein.
Ah, tu es fan?
Je suis fan. Non, pas trop, mais c'était pour le petit pic. Moi, j'avais choisi Paré Peintre. Pourquoi? Parce que ouais, c'est le coureur qui peut sortir partout. Qui, en fait, j'ai pas envie de dire qu'il s'en fiche, mais voilà, le général, ça sera pas du tout son objectif. Il va être là potentiellement pour aller chercher une étape ou alors pour peut-être aider Félix Gall dans les montées, mais voilà, Paré Peintre, sur un coup de tête, ça peut partir en échappée, c'est un bon grimpeur, donc pourquoi pas, à voir ce qu'il est capable de faire. Et je pense qu'il est pas non plus en méforme sur le début de saison. Il est
Bon
sur
début de
les...
saison, hein, même.
Oui, bon début de saison, oui, il fait des top 10, il fait podium sur le tour de Alpes-Maritimes. Donc non, je pense que il a les jambes voilà, et il faut les utiliser sur Paris-Nice pour pouvoir s'exprimer et pouvoir un petit peu montrer et se tester face à des coureurs au World Tour pour le coup. Donc voilà, je sais pas, ça peut être, je me dis pourquoi pas.
Et bah, pourquoi pas, effectivement, on suivra en tout cas Aurélien Paré-Peintre avec attention, comme beaucoup d'autres coureurs. Et bah, messieurs, on arrive à la fin de cette preview de Paris-Nice. Merci beaucoup. Et puis bah voilà, on le rappelle, du coup, vous pouvez nous suivre sur Facebook, sur Instagram, aller lire les articles, les super articles de Matt et Simon. Et puis bah on se retrouve tout bientôt pour bah voilà, une future preview, des débriefs de course. Là, on arrive vraiment dans le dur de la saison et ça nous fait plaisir. Et puis raison de plus pour bien continuer à s'alimenter. On enchaîne les courses. Attention. La fringalette. Ciao tout le monde, merci beaucoup messieurs.
Ciao les copains,
Des bisous
bye
à tous et allez, on va aborder.